Alors, vous savez de quoi on va parler ce matin? Vous savez de quel livre on va regarder? Vous avez une idée? Un Corinthien, évidemment. Chapitre 10. On va débuter l'étude du chapitre 10. La semaine dernière, on avait fini avec Andou. Vous vous rappelez, ça parlait de sport, ça parlait d'une analogie entre le sport et la vie chrétienne. Et bien à présent, on va être dans 1 Corinthiens. On va voir une autre idée que Paul développe. Vous allez voir qu'elle est en lien aussi avec le passage vu la semaine dernière. Je vais prier de prêcher. Seigneur, c'est ta parole que nous ouvrons ce matin. Seigneur, nous ouvrons ta parole et nous venons de chanter « Ouvre nos yeux, Seigneur ». Ouvre nos yeux pour qu'ils soient attentifs à ce que nous allons lire. Ouvre nos oreilles afin qu'elles soient attentives à ce que nous allons entendre. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir pleinement ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Ta parole est vivante, Seigneur, qu'elle parle encore à nos cœurs aujourd'hui. En ton nom. Amen. Alors, avant de lire le passage de ce matin, je vais relire le passage de la semaine dernière, parce que vous allez voir que finalement, ils ne sont pas détachés et c'est vraiment une transition. Alors, on va relire 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Parce qu'on peut les lire séparément, mais quand on les lit à la suite, on comprend qu'il y a un lien pertinent entre les deux, une transition. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Si tu veux bien avancer, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors, on relit ce texte parce qu'on voit bien la notion de tous courent dans le stade, mais tous ne remportent pas le prix. Alors au chapitre 10, Paul va développer cette même idée, mais il va prendre une autre image, il va prendre l'image du peuple d'Israël pendant sa marche dans le désert. Et il va accentuer que tous avaient été bénis par Dieu, tous étaient sous la conduite du Seigneur, mais que tous ne sont pas entrés en terre promise. Regardez avec moi, chapitre 10, versets 1 à 12. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors Paul, bien sûr, il parle ici à des Grecs, mais aussi à des Juifs, parce que dans l'Église primitive, au départ, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient de se convertir, vu que Paul fréquentait les synagogues. Donc il parle à un peuple ici, plutôt large, et il va prendre l'exemple du peuple d'Israël qui a marché pendant 40 ans au désert. Alors je vais faire un petit rappel pour ceux parmi nous qui ne seraient pas familiers de l'histoire, des histoires bibliques. On va essayer de parcourir 600 ans de l'histoire d'Israël en 1 minute 30. Gros challenge. Et je vais résumer assez rapidement. Au départ, Genèse chapitre 12, l'Éternel appelle un homme, Abraham, choisit un homme qu'il voit avec un cœur qui lui plaît, qui lui est agréable. Il va lui dire, sors de ta famille et de ton pays, je vais te donner un autre pays, Canaan. Alors le patriarche va sortir, va faire ce voyage, il va donner ensuite naissance à Isaac, et puis ensuite Isaac va donner naissance à Jacob. C'est lui qui va avoir son nom, qui va être changé en Israël. Jacob va avoir combien de fils ?
12,
dont Joseph, qui va faire la jalousie de ses frères, et donc ils vont l'attraper, le vendre à des Égyptiens, etc. Donc il va se retrouver déporté. Par intervention divine, ce Jacob va se retrouver en Égypte, ben, il va être promu intendant du pays, presque premier ministre, on pourrait dire aujourd'hui, directeur général voilà, du pays. Et c'est lui qui va sauver l'Égypte de la famine, avec les sept, les vaches maigres, les vaches grasses, etc. Et à cette occasion, ses frères s'étaient restés en Canaan, il va y avoir la même famine, bien sûr. Donc ils vont aller chercher du blé en Égypte pour manger. Et c'est là, par un concours de circonstances organisé par Dieu, qu'ils vont reconnaître leurs frères, qu'ils vont se retrouver. Et donc le père Jacob avec ses enfants vont venir ensuite rejoindre Joseph et ils vont habiter là en Israël. Ensuite le peuple va se multiplier, ils vont être très féconds, voilà. Et pendant 430 ans, ils vont demeurer en Égypte, ils vont proliférer, et puis ils vont se retrouver esclaves des Égyptiens qui vont être jaloux à leur tour. Esclavage pendant 430 ans, et puis Dieu va susciter un personnage qui est très connu, hein, Moïse. Il va l'appeler, il va lui faire prendre la tête du peuple, c'est lui qui va faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte pour l'emmener, le ramener dans la terre promise de Canaan. Alors le peuple, il va traverser le désert, et puis assez rapidement, il va se retrouver devant Canaan. Ils vont envoyer 12 espions, et puis ils vont faire un rapport, et puis il y en a 10 qui vont dire « Le pays est magnifique, mais alors il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on n'y arrivera jamais, c'est pourquoi vous nous avez fait venir d'Égypte, c'est pour nous faire mourir ici, nous et nos enfants ?» Je dépasse les 1 minute 30, je vais faire en 2 minutes, je crois. Et donc, il y a deux espions qui vont être fidèles, c'est Josué et Caleb, qui vont dire « Non, non, l'Éternel sera avec nous, on peut prendre ce pays-là. » Alors Dieu va punir le peuple d'Israël, il va leur faire demi-tour, et il va les entraîner pendant 40 ans dans le désert, avec toute une série d'épreuves qui vont se passer, c'est ce qu'on va voir juste après. Pourquoi ? C'était pour que toute la génération de ceux qui étaient présents là meure, sauf deux personnes qui vont entrer dans le pays promis. C'est donc Josué et Caleb. Le plan de Dieu, ce n'était pas au départ que le voyage soit si long, mais comme ils avaient été infidèles et rebelles, le voyage a duré plus longtemps. Alors, c'est ce que va dire ici Paul. Il va donner cet exemple-là. Et puis, il va dire, voilà, la mauvaise attitude de ce peuple-là, c'est la vôtre, finalement. On va regarder ça à présent. Quels sont les exemples mentionnés par Paul, alors ? Durant ces 40 années au désert, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Relisez-les, hein, c'est très riche, notamment le livre des Nombres. On va regarder déjà pour commencer dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. On va revenir dessus. Avec cet exemple, Paul débute en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, et dans la mer. » On va peut-être relire cet épisode, c'est dans Exode chapitre 13, versets 17 à 22. On va voir ce passage avec cette nuée-là. Il y avait une colonne de nuée, de feu, etc., de fumée, on va regarder. C'est au moment donc où Pharaon va lâcher Israël, il va les laisser partir. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils repartirent de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. C'est le dernier verset qui est important ici. Qui a le sens de l'orientation parmi nous ? C'est plutôt les hommes en général. Oh, vous allez me... dire oui, c'est un macho et tout. Plutôt les hommes en général qui ont le sens de l'orientation, mais il y a des femmes aussi qui l'ont évidemment. Vous imaginez partir en plein désert, vous n'avez pas de carte, pas de boussole, pas de GPS, rien. Qu'est-ce qui va se passer? Même si vous avez le sens de l'orientation, ça va être compliqué. C'est aussi le cas pour Israël. Vous avez vu, il y avait un chemin bien tracé, mais ils traversaient le chemin des Philistins, et a priori, il y avait une guerre. Et Dieu s'est dit, ils vont se démoraliser, ils vont vouloir repartir en Égypte, là. Donc je vais leur faire prendre un autre chemin. Ah ben, c'est un chemin qui n'était pas connu, celui-là. À travers le désert, il n'y avait pas de piste, il n'était pas tracé. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors le Seigneur, eh bien tout simplement, ils n'ont pas de repère, mais Dieu est bon. Donc il va envoyer cette nuée ici. Et on voyait que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alors qui marche à leur tête ici, à la tête du peuple? Cette colonne, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Hein, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne, il est là, il marche devant eux, jour et nuit. Alors qu'est-ce que ça nous dit ce passage-là? Bah, tout d'abord que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui choisit le chemin. Le plus court, c'était le chemin qui passait par Canaan. Mais Dieu fait prendre une autre voie. On dit que le trajet le plus court d'un point A à un point B, c'est une ligne droite. C'est le plus simple. Et souvent, nous, c'est les choix qu'on veut faire dans nos vies. Hein, on va dire, on va faire le plus simple, on va faire la ligne droite de point A à point B, ce sera très bien. Mais parfois, Dieu il dit, non, faire un petit détour. Là. C'est pas ce qu'on pensait faire, mais parfois, le Seigneur organise les choses. Et quand c'est le Seigneur qui décide, c'est pas forcément le chemin le plus court, c'est toujours le chemin le plus adapté. C'est celui que Dieu a décidé pour nous. Là, en l'occurrence, c'était pour protéger Israël. C'était pas pour l'embêter. C'était parce qu'il y avait des dangers de l'autre côté. Donc c'est Dieu qui choisit le chemin, et c'est toujours le plus adapté, même s'il nous surprend parfois. Deuxième point, Dieu ne veut pas que le peuple se perde. Donc, il marche lui-même devant eux pour les accompagner, pour les conduire et pour les guider. Dieu est à la tête. Et enfin, il veut que rien n'arrête notre marche, parce que regardez, la nuit, la colonne de feu était là pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête dans la marche chrétienne. Il ne veut pas que le jour, on soit des chrétiens, et puis la nuit, alors après 22h ou même certains passages de nos vies, bah, on arrête la marche chrétienne, et puis bah, on se met un petit peu en retrait. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, que nous dit ce passage-là? Que Dieu est avec nous chaque jour pour nous guider sur notre chemin. Il ne va pas forcément nous dire, c'est le chemin que tu avais choisi, c'est peut-être le chemin qu'il va choisir, lui, qui va nous surprendre peut-être. Il va peut-être éprouver notre patience, notre foi, mais c'est lui qui va choisir tout ça pour nous. Quels sont les autres exemples que Paul a donnés dans ce passage? Vous vous rappelez un petit peu ce qu'il y avait? Il y avait la nuée d'abord, après qu'est-ce qu'il y avait? On va regarder verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alors il y avait l'épisode des cailles, mais qui n'était pas forcément spirituel. Mais il y avait la manne. Vous savez, ces grains là, qui descendaient tous les jours, le peuple se nourrissait avec ça. C'est ce qui va nourrir Israël 40 ans au désert, 40 ans avec la manne. Ensuite, verset 4, autre exemple donné par Paul. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous rappelez, ce rocher, c'est quand le peuple, encore une fois, il dit « on a soif, on va mourir ici » et tout ça. Donc Dieu pourvoit avec un rocher, il dit à Aaron et à Moïse « vous allez parler au rocher qui va donner de l'eau », puis Moïse va taper deux fois, ça va être sa condamnation à Moïse. Voilà, vous connaissez ce passage ? Bien connu. Verset 7. Autre exemple donné par Paul. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. C'est quel passage, ça, d'après vous? Ouais, c'est le veau d'or. Ouais. C'est le passage, justement, où c'est vraiment l'idolâtrie d'Israël qui va dire, Israël, voici ton Dieu, hein, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et puis juste après, effectivement, on voit dans cet épisode que Dieu, le peuple s'assit pour manger, pour boire, se divertir, etc. Verset 8, autre exemple. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous voyez à quel passage il est fait allusion ici ou pas? Ça, c'est plus compliqué. Alors, on va regarder. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 25, versets 1 à 3. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Les Juifs ont commencé à aller avec les filles de Moab, et vous savez que les filles de Moab, c'était la descendance des enfants de... Voilà, de Lot, qui avait eu avec ses filles par inceste. Vous connaissez cet épisode tragique. Enfin, c'est plutôt les filles qui avaient fait en sorte que... Voilà. Donc, il y avait deux peuples qui étaient sortis de cette descendance-là, Moab et Ammon, et Dieu avait dit, ils ne rentreront jamais dans mon peuple. Et là, ici, on voit qu'Israël, bah, dans le désert, à un moment, il se trouve avec d'autres voilà, ces peuples-là. Et du coup, bah, ils vont faire ce qui n'est pas recommandé par Dieu. Donc, voilà. Si la Bible nous dit que ça, c'était de la débauche sexuelle, de l'immoralité, donc Dieu condamne. Ensuite, verset 9, dans 1 Corinthiens 10, verset 9, dernier épisode, avant-dernier. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Vous connaissez cet épisode ? Ouais, ça c'est plus connu. Voilà. Donc à un moment, il y a une révolte, c'est juste après la révolte de Corée, donc Dieu va ouvrir la terre, il va engloutir tout le monde, et le peuple va dire « Mais tu veux nous faire mourir ?» Tu veux faire mourir le peuple de Dieu ? Regardez, on va regarder ce passage, c'est dans Nombre 21, versets 4 à 9. Ce qui est intéressant, c'est la réaction du peuple. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la... 21, verset 4 à 9, ouais, ça doit être ça. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ouais, c'est pas celui-ci, autant pour moi, c'est un petit peu plus loin. Attends, Nombre 21. C'est un tout petit peu après. Vous l'avez ici ? Ok, ouais, je confonds avec le passage d'après, autant pour moi. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? La préfiguration de... Christ sur la croix, qui va mourir pour le péché des hommes, et c'est ceux qui regardent la croix à Jésus-Christ, qui l'acceptent comme leur sauveur, comme sacrifice pour eux, qui vont être sauvés à présent. Israël avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples hein, de préfiguration de Jésus-Christ, du plan de Dieu. Hein. Le Seigneur s'était vraiment révélé, de façon un peu voilée, et c'est le problème d'aujourd'hui encore, c'est que souvent, certains ont conservé ce voile. Alors voilà, c'est dans 1 Corinthiens 10, c'est ce passage où je faisais une... confusion là, verset 10 dans 1 Corinthiens 10, verset 10, c'est le dernier exemple que donne Paul. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Vous voyez, c'est quel chapitre celui-ci, quel épisode ? Là, faut gratter un peu plus, là. C'est moins facile que le veau d'or. Hein. Ici, c'est un passage qu'on trouve dans Nombre 16, verset 41 à 49, qu'on va lire. Nombre 16, 41 à 49. Comme je l'ai rajouté ce matin, je me suis trompé sur mes notes tout à l'heure. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Se plaçant entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc ça, c'est l'épisode qui arrive juste après la révolte de Corée, voilà, pour bien la resituer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va relire le verset 41 de ce passage. Donc les Juifs se sont révoltés, Dieu a ouvert la terre, il a englouti Corée, ceux qui s'étaient rebellés, la terre s'est refermée. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Donc les Juifs là sont en train de dire « Le peuple de l'Éternel, c'est nous, et vous, vous êtes nos ennemis finalement ». Ils sont en train de contester l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron. Pourquoi Paul donne tous ces détails-là? Parce qu'il va revenir, il va dire « Ces mêmes péchés-là, c'est ceux que vous êtes en train de commettre ». Et on va détailler juste après, mais dans ces passages, ce qu'on voit, c'est le contraste très fort entre la bonté de Dieu, sa fidélité, sa puissance, et puis l'homme à côté qui est inconstant, arrogant, querelleur, rebelle, etc., etc. Dieu, lui, il est bon, il est fidèle, il est lent à la colère et miséricordieux. Et l'homme, par nature, c'est simple, c'est tout l'inverse. Voilà. Alors, pourquoi Paul, il dit tout ça aux Corinthiens? Il leur fait une longue présentation, et puis regardez ce qu'il dit au verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, l'apôtre ici l'adresse aux Corinthiens, et à nous, par la même occasion, un constat, une recommandation et une exhortation. Alors, un constat tout d'abord. Mais voilà, ces faits sont arrivés aux Juifs, et Dieu en a gardé une trace dans la Bible, mais aussi aux Corinthiens, à l'exemple des Corinthiens, il est aussi, dans un but. Si tu veux revenir verset 11, pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est la raison pour laquelle toute la Bible est intéressante. Ne vous contenez pas, les amis, à lire que le Nouveau Testament, et puis les parties un peu saintes de l'Ancien Testament. Vous avez vu, quand on regarde le livre des Nombres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples pour nous. Il faut apprendre, il faut lire, il faut s'édifier dans toute la Bible. Alors c'est pour ça que c'est une très bonne initiative de faire les camps pour les enfants, les clubs pour les enfants, parce que vous abordez aussi le Nouveau Testament, là c'est la Tsunamite, donc c'est une très belle idée de parcourir la Bible aussi pour que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent avoir l'instruction depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et même le livre des Nombres est édifiant, Lévitique est édifiant, Deutéronome est édifiant. Tout ceci est écrit pour notre sanctification et notre édification. Vous connaissez Jean 3,16? Connaissez-vous 2 Timothée 3,16? Vous allez voir, vous connaissez 2 Timothée 3,16. On va le lire. 2 Timothée 3,16 et 17. Vous connaissez Jean 3,16, rappelez-vous de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Voilà. Toute l'écriture est utile. Donc le premier constat, c'est que toutes les histoires qui sont contenues dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est utile pour nous. Une recommandation ensuite. Pourquoi est-ce que ces histoires doivent nous servir d'exemple? Eh bien, on l'a lu. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Voilà. Le Seigneur, il connaît très bien la nature de notre cœur. Il sait très bien de comment on est fait. Il sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait qu'on est comment? On est mauvais, on est méchant, on est inconstant, on est infidèle, etc., etc. Mais le Seigneur ne nous laisse pas tout seul. C'est pour ça qu'il y a la Bible, il y a tous les exemples là, il y a toutes ces exhortations là. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit tout seul dans le désert finalement. Il ne nous envoie pas dans le désert en disant « Débrouille-toi, bonne chance, salut !» Non, pas du tout. Le Seigneur, on a vu qu'il avait envoyé la colonne, il marchait lui-même, de jour comme de nuit. Et regardez ce verset, dans Psaume 119, 105. On n'a peut-être pas la colonne, on n'a peut-être pas cette nuée qu'on voit tous les jours. Mais on sait une chose, c'est que de jour comme de nuit, le Seigneur est là. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a la colonne. Et même si des fois on doit marcher dans les ténèbres, ça va peut-être arriver qu'à un moment on soit dans le désert spirituel, on va peut-être traverser des épreuves, on va peut-être se sentir perdu à un moment, vraiment dans les ténèbres, le Seigneur dit, sa parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On est autant béni, voire plus, que le peuple d'Israël. Il avait Dieu face à face. Nous, on a une révélation complète de la Bible et de Jésus-Christ. Il faudra peser le pour et le contre. De toute façon, le Seigneur, c'est ce qu'il avait pourvu en temps pour chacun, et c'est ce qui était parfait. Donc, un constat. Eh bien, toute la Bible est bonne. Étudions toute la Bible. Une recommandation ensuite. Eh bien, tout ça, ça a été écrit pour qu'on n'ait pas de mauvais désirs, pour qu'on puisse s'instruire et qu'on puisse garder nos cœurs. Et l'exhortation, eh bien, c'est le verset qu'on a lu après. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. L'apôtre, il est en train de leur dire, attention les Corinthiens, vous êtes un peu arrogants, on l'a vu au fil des semaines, un peu prétentieux, vous croyez un peu les maîtres du monde, ça c'est ce qu'il dit entre parenthèses, mais surtout leur dit, attention, si vous pensez être debout, faites attention à ne pas tomber. Parce que quand il donne toute cette litanie, Paul, en fait, il est en train de pointer du doigt le péché des Corinthiens. Il est en train de leur dire, vous faites la même chose. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, il y avait quatre péchés mentionnés. Il y avait l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la provocation contre Dieu ou contre Christ, et les murmures contre les autorités établies par Dieu. Et bien, ce que faisaient les Corinthiens, c'est la même chose. Et on l'a vu durant les dernières semaines avec Andou, c'est idolâtrie, immoralité sexuelle, murmure contre Dieu, remise en cause, etc. On veut faire ce qu'on veut, etc. Remettre en cause aussi les autorités établies par Dieu. Voilà, Paul, il est vraiment apôtre, Paul. Moi, je suis plutôt pour Pierre, moi, je suis plutôt pour Apollos, etc., etc. Donc, leur attitude, c'est exactement la même. Ils pensaient faire partir du peuple de Dieu, ces Corinthiens, en disant, bah, nous, on est des chrétiens. Donc, comme on est des chrétiens, bah, c'est bon, on est sauvés, quoi. Et nous, on pourrait se dire aussi, bah, c'est bon, je suis sauvé. Hein. Je suis sauvé, je gagne le ciel. De toute façon, le salut ne peut pas m'être repris. Donc, bah, maintenant... Youhou, je fais ce que je veux. C'est pas du tout ce que dit la Bible. Et on a vu l'exemple d'Israël. Ils faisaient partie du peuple de Dieu. Est-ce qu'ils sont tous rentrés dans Canaan? Non. Et les chrétiens de Corinthe pouvaient aussi penser qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Donc voilà. Hein. Mais qu'est-ce que leur avait enseigné Paul? Rappelez-vous ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Et qui va redire au chapitre 11. Tout vous est permis. Ok, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas et je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Donc Paul disait, oui, c'est vrai, non, vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez manger des viandes sacrifiées aux idoles. Hein. Simplement, ne faites pas chuter les autres. Si c'est un motif de conscience pour les autres, ne le faites pas. Vous, vous pouvez en manger. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La Bible, c'est simple. Hein. Le message du salut, il est tellement simple. La Bible dit, Romains 10, verset 9, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Très simple. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc si tu reconnais publiquement hein, Jésus comme ton Seigneur, si tu crois dans ton cœur vraiment qu'il est vraiment mort sur la croix pour tes péchés, s'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Facile. Et donc, une fois qu'on est sauvé, bah, c'est là que tout commence, les amis. C'est pas là où on va commencer à faire n'importe quoi. Il y a un chemin qui commence à partir de ce moment-là et qui va s'arrêter jusqu'au notre dernier souffle de vie qui s'appelle la sanctification. Et c'est à partir de là où on doit faire attention à ne pas se laisser souiller, à revenir en Égypte, dans le monde, en esclavage, etc. Maintenant, la destination, c'est Canaan, le but à atteindre. C'est pas de revenir en Égypte. Et les Hébreux, ils étaient comme ça dans le désert, c'est toujours... Quoi, on est parti d'Égypte, quoi. On était bien, il y avait à manger, ils étaient esclaves, ils se plaignaient de la quantité de travail tous les jours, etc. Mais finalement, avec le recul, ils disaient, c'était quand même mieux avant, hein. On avait à manger et tout, ouais. Ils étaient surtout esclaves. Mais à présent, justement, on est sur le chemin de la sanctification qui doit nous mener jusqu'à la terre promise, jusqu'au ciel, et c'est justement là où il ne faut pas avoir l'attitude des Hébreux dans le désert qui nous servent d'exemple pour dire la marche avec Christ à présent, il faut faire attention. Regardez ce que dit Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Paul dit aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on est venu au Seigneur, eh bien voilà, Christ vit en nous. Et si on vit maintenant dans la chair, ce qui est notre cas aujourd'hui, on le vit dans la foi au Fils de Dieu. Donc, Paul dit, pas de rébellion, pas d'immoralité sexuelle, pas d'idolâtrie, pas de murmure contre Dieu ou vos autorités. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Prenez garde. Sinon, il leur donne l'exemple d'Israël au désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de Juifs sont arrivés à Canaan? Ils sont partis, vous savez combien de personnes il y avait au départ de quand Israël est sorti d'Égypte? Alors le chiffre n'est pas précisé, mais on l'évalue à peu près à plus d'un million. C'est-à-dire que Moïse était à la tête d'un million de personnes. Vous imaginez? Peut-être que dans votre travail, vous avez peut-être des responsabilités, vous avez 3, 4, 10 personnes, peut-être, ou vous avez un chef qui a 4, 10 personnes, voire 200 personnes. Un million! Vous imaginez? Et un million, c'est pas... Je suis président de la République française avec mon conseil des ministres et chacun sa tâche et puis tout le monde... Non, non, c'est un million derrière qui tous les jours vient vous dire « J'ai faim, j'ai soif, j'ai l'autre qui m'embête, j'ai tout ça. » C'était ça le Moïse quand il est sorti. De ce million, il y avait même un peu plus, combien rentrent dans Canaan? Deux. Deux ont été jugés dignes de rentrer en Canaan. Même Moïse n'est pas entré dans Canaan. Même lui a été disqualifié, hein. Alors Paul justement les avertit, dit un million, tout le peuple hébreu, deux dans Canaan, si vous réfléchissez à ça. Donc la course, c'est pas tout le monde qui la gagne. Hein. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Alors c'est facile pour nous, hein. Nous on a la révélation complète de Dieu, on connaît le plan Genèse 1 à 11, vers les chapitres 1 à 11 de la Genèse, constitution du monde, création, etc. Création, chute, rédemption... promesse, ta descendance écrasera la tête du serpent. On a tout l'histoire d'Israël avec Abraham, Isaac, Jacob, l'attitude des 12 enfants de Jacob, le parcours d'Israël en Égypte, toute l'histoire avec David, les patriarches, etc., la division, royaume nord-sud, les déportations, le retour, etc., la révélation de Jésus-Christ, tout l'enseignement de Jésus, les actes des apôtres avec l'Église après, toutes les épîtres de Paul, et même l'Apocalypse. On sait exactement ce qui est arrivé au début de la création, et ce qui arrive à arriver au dernier jour. Dieu nous a quasiment tout dit. Alors on pourrait se dire, les Hébreux et les Corinthiens, franchement, pas bon, quoi. Heureusement, on n'est pas comme ça. Nous, on ne va pas tomber. La Bible nous dit, attention, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Il faut qu'on fasse juste notre auto-analyse. Est-ce qu'on est super? Est-ce qu'on est 20 sur 20 devant Dieu? Qui est sans faute devant Dieu ce matin? Allez-y, vous pouvez sortir, j'ai pas besoin de prêcher ce matin, c'est pas la peine. On est tous pareils. On n'est pas irréprochables, on n'est pas sans tâche devant Dieu, loin de là. On se querelle pour beaucoup de choses, vous savez. Au travail, dans nos foyers, dans l'église. Ça arrive aussi, hein, des fois, des petits conflits pour rien, quoi. On se querelle pour rien du tout, quoi. Eh bien, Dieu avait infligé un châtiment sévère à Israël. Hein. Ils sont tous morts, et vous avez vu, c'est au compte-gouttes, des fois. Hein. 23 000 en une journée. Etc. Des fois, c'était des dizaines de milliers de morts en fonction des fautes. Hein. Ils étaient tous dans la course, tous, et presque tous surdisqualifiés. Vous vous rappelez, on a relu ce verset au départ. Hein. Ils étaient tous en train de courir dans le stade. Hein. Ils faisaient partie du peuple de Dieu. Hein. Pas de problème, hein, ils étaient dans la course. Hein. Combien sont arrivés au bout? Deux. Et c'est ce que Paul rappelle aux chrétiens de Corinth. Il dit, vous avez les mêmes péchés. Et bien, voici la conséquence de tout ça. Faites attention, c'est la mort. Et vous allez voir, regardez un passage dans 1 Corinthiens 11, versets 29 à 30. On l'abordera bientôt les prochains dimanches. Mais regardez, ils le vivaient vraiment, les Corinthiens, cette similitude-là. Vous savez, c'est ce passage quand Paul dit « J'ai appris du Seigneur ce que je vous enseignais, il a pris la coupe, etc. » Il dit « Faut boire et discerner le corps du Seigneur, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Et verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il est en train de dire, vous êtes en train de vivre la même chose. Ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils sont rebellés, comme le peuple d'Israël au désert. Hein. Vous êtes dans la même, faites partie de la même veine qu'eux. C'est pas les Juifs, hein. Vous êtes pareils. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup de coureurs, peu de vainqueurs. Deux personnes qui gagnent la terre promise sur un million, Josué et Caleb. C'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Même Moïse, on l'a dit, il a été disqualifié. Même lui. Regardez, Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. On va finir avec ça. Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné, tout va bien, prends la verge, il prend la verge. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? Aïe, Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher. C'est ce que Dieu avait dit ? Il avait dit, tu parleras au rocher. Il va frapper deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Aïe, aïe, aïe. Ça peut sembler sévère, hein ? Mais Dieu avait dit une chose, hein, et Moïse et Aaron étaient l'exemple du peuple, c'était les conducteurs. Si Dieu disait des choses en face à face à Moïse et que Moïse faisait autre chose devant le peuple, bah évidemment, quoi, évidemment. Dieu a dit « parle au rocher », c'était suffisant par la foi. Moïse, on ne sait pas, peut-être qu'il s'énerve, je ne sais pas, il tape, il dit « bon, vous commencez à me fatiguer », il tape deux fois le rocher. Mais non, ce n'était pas ce qu'avait dit Dieu, et Dieu... Alors, je parle aux responsables dans vos églises, dans vos ministères et tout ça. Ça veut peut-être aussi dire qu'attention, Dieu va être un peu plus exigeant avec vous s'il vous confie des responsabilités. Hein. Il va être, attention, assez pointilleux à ce que vous devez faire. Bon, il ne va pas forcément vous faire disparaître ou vous punir comme ça. Peut-être pas, Dieu est patient aussi. En tout cas, là, Moïse, il se disqualifie. Et peut-être qu'on peut comprendre que Paul, vous rappelez les versets qu'on avait lus dans 1 Corinthiens 9, versets 26-27, si tu veux relire. Nous remettre sur le tableau. 1 Corinthiens 9, versets 26-27. On comprend peut-être mieux pourquoi Paul il dit aux Corinthiens, vous savez que tous courent dans le stade, mais que tous ne sont pas qualifiés. Puis après, il dit, moi je cours aussi, mais pas comme à l'aventure, hein. Je fais pas n'importe quoi. Hein. Je frappe, mais je brasse pas de l'air. Quoi. Verset suivant. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. J'ai quand même l'impression que là, Paul, il est en train de dire « J'ai Moïse là dans un coin de la tête. C'est un bon prédicateur, un bon conducteur du peuple et tout, mais il a été disqualifié, Moïse. Donc moi, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, j'ai une discipline personnelle dans ma vie qui fait que j'ai peur d'être désapprouvé à pouvoir prêcher aux autres, quoi. » Donc là, il se parle aussi à lui-même. Puis peut-être à nous, enfin à ceux qui sont conducteurs dans les églises aussi. Attention, soyons vigilants avec notre propre conduite, qu'on soit conducteur ou pas, hein. Soyons comme des athlètes de la foi, on l'avait vu avec Andou la semaine dernière, hein, pour être sûr de remporter la course. Donc, les athlètes, je résume un peu ce qu'il avait dit l'autre jour, il y avait trois points, c'était l'entraînement, on doit s'entraîner régulièrement, et ça passe par quoi l'entraînement du chrétien ? Bah, les sportifs, c'est tous les jours, hein. Donc le chrétien, tous les jours, il fait quoi ? Il prie, il médite sa parole, il lit sa parole, etc. Ensuite, le sportif, il entretient son corps. Il ne va pas manger chez... Allez, je ne vais pas citer des franchises américaines très grasses et trop sucrées, trop salées. Attention, 5 fois légumes par jour. Il entretient son corps, mais aussi l'esprit que Dieu lui a donné, parce qu'on est dans un domaine spirituel, donc en se tenant à l'écart du péché, des abus, etc. Une bonne hygiène de vie spirituelle, mais aussi physique. Donc, entraînement, entretien du corps et de l'esprit, mais aussi courir de toutes ses forces. Hein. Paul dit, hein, moi je m'impose une discipline personnelle. Sans relâcher dans notre consécration à Dieu, parce que c'est le prix de la victoire. Tous courent, mais tous ne franchissent pas la ligne à la fin. Et nous, la ligne, c'est quoi ? Bah, pour les justes et le pays promis, bah, nous, c'est le ciel. On a envie de le gagner, le ciel, mais on a envie de le gagner avec toutes les récompenses que le Seigneur a préparées. Ce n'est pas juste, allez, on est sauvés, on fait n'importe quoi. Il y aura un jugement, il y a le tribunal de Christ pour les chrétiens. Ils auront gagné le ciel. Mais si on a une mauvaise vie, ça va être comme au travers du feu. Donc on va passer. Mais on va être carbonisé, on va rentrer dans le ciel, dans quel état ? Donc il vaut mieux. C'est pour ça que Paul dit, il y a des directives, vous êtes comme des coureurs dans un stade, allez jusqu'au bout. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui ? 4 points. Dieu est bon, Dieu nous aime, et quand Dieu nous envoie dans le désert, c'est pas tout seul. Si on lui a donné sa vie, il est lui-même devant nous, de jour comme de nuit, dans la lumière comme dans les ténèbres. Et c'est lui qui dirige, il va choisir le chemin et il va nous conduire. Alors des fois, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Laissons le Seigneur faire. Deuxième point, toute la Bible est utile pour notre édification. depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez vu, on a parcouru le livre des Nombres. Il y a des passages qu'on connaissait bien, d'autres qu'on a cherché un peu. Moi, le premier aussi, j'ai gratté un peu pour les retrouver. Pas forcément évident. Donc, toute la Bible est utile, tous les livres de la Bible, quels qu'ils soient. Pourquoi ? Troisième point. Parce que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ça doit nous servir d'exemple. Ce sont parfois de bons exemples, parfois de mauvais exemples, pour justement qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Donc, tous ces exemples-là, ce n'est pas pour qu'on juge en disant « Ah ah ah, Adam, j'aurais jamais mangé la pomme ». Non, non, à place d'Adam, j'aurais mangé la pomme aussi, vu que je l'ai mangée après, donc je ne peux pas le juger. Tous ces exemples et ces histoires-là sont faits pour notre édification. Et le quatrième point, attention à ne pas chuter, prenons soin de nous, on doit être vigilant et être comme des athlètes de la foi, afin d'être sûr, les amis, de remporter la course. Vous êtes prêts pour la course ? Non, je vous ai assommé ce matin. Alors on va prier. Seigneur, c'est une belle image, celle des athlètes, Seigneur, dans un stade. C'est une belle image parce qu'on voit les efforts qu'ils font et combien c'est dur d'arriver au bout. Ouais, c'est dur, effectivement. Ce sont des efforts, Seigneur, ça demande de l'entraînement, de l'entretien, de la discipline. Et c'est ce que tu nous disais déjà la semaine dernière. C'est ce que tu nous as redit ce matin dans ta parole, Seigneur. La marche dans le désert, c'était bien aussi difficile qu'une course dans un stade. Hein. C'était plus long, par contre. C'était pas un sprint, là, c'était sur une durée qui était longue, 40 ans. Mais tu as, pendant 40 ans, éprouvé leur foi. Et ils n'en ont pas été dignes, Seigneur, il faut bien le dire. Seuls deux s'en sont montrés dignes, Seigneur, Josué et Caleb. Et nous, Seigneur, est-ce que nous sommes dignes de cet appel que tu nous as lancé ? Est-ce que, Seigneur, nous sommes dignes d'aller jusqu'au bout, Seigneur ? Est-ce que nous tiendrons ? Est-ce que nous ferons des efforts, Seigneur ? Est-ce qu'on ne va pas chercher du dopage, Seigneur, pour terminer cette course le premier ? Est-ce qu'on ne va pas chercher de la triche ? Est-ce qu'on ne va pas essayer de jouer avec certaines choses pour essayer de remporter ce combat ? Non, Seigneur, tu nous as dit, ta parole nous suffit, ta grâce nous suffit, même dans la faiblesse, même si parfois nous sommes fatigués, nous voyons que la ligne d'arrivée est si loin. Mais Seigneur, tu as dit, ta grâce me suffit, c'est dans la faiblesse que s'accomplit ta force, Seigneur, finalement. Sois béni pour ça, Seigneur, aide-nous. Fais-nous bien ouvrir les yeux pour que nous te voyions chaque jour marcher devant nous, chaque nuit aussi, Seigneur. Voir que tu es toujours là. Quelles que soient nos vies, Seigneur, nos épreuves, nos tentations, nos luttes, nos combats, nous savons que tu es là parce que tu l'as dit et que tu es bon, lent à la colère, miséricordieux, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et aide-nous à aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur, sans nous salir, sans chuter. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.